Les colloques du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir assister donc à ce colloque et en particulier à cette deuxième table ronde consacrée au traité de paix israélo-égyptien et à la question de Palestine. En quelques mots, donc, le traité de paix est signé en mars 1979 entre l'Égypte et Israël. Il est le résultat de plusieurs évolutions régionales liées en particulier aux évolutions de la guerre de 1973. Qui a permis d'ouvrir un canal de négociation de paix entre Israël et l'Égypte, plus fort, vous dites, donc peut-être le micro plus près, qui débouche donc sur l'accord de Camp David de 78 entre Sadat, Begin et Carter, suivi quelques mois plus tard de la signature du traité de paix entre Israël et un pays arabe, le traité de paix israélo-égyptien de 1979 donc. Ce traité de paix va évidemment avoir des conséquences sur la question de Palestine et sur les évolutions politiques au sein du mouvement national palestinien, dont peut-être la plus notable, on en reviendra, et le rapprochement entre l'OLP et la Jordanie. Pour en discuter, nous recevons donc Alain Gresh. Vous êtes journaliste spécialiste du Proche-Orient, directeur du journal Orient 21, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. De quoi la Palestine est-elle le nom ? Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française. Récemment, vous avez republié un ouvrage important, Le Fatah, la révolution palestinienne et les juifs, réédité donc avec Orient 21 et Libertalia. Et puis, je mentionne un autre livre qui, à mon avis, est absolument fondamental pour quiconque s'intéresse au mouvement national et à ses évolutions, OLP, Histoire et stratégie vers l'État palestinien, publié en 83 et qui reste tout à fait d'actualité et absolument central. À mes côtés, Dimal Sajdeya, docteur en sciences politiques et relations internationales. Elle est chercheuse associée à la chaire Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France et au Centre Thucydide et chargée d'enseignement à Sciences Po Paris. Tes recherches portent sur la place de la question israélo-palestinienne dans la politique étrangère de l'Égypte et sur les dynamiques de pouvoir en Palestine. Tu as notamment co-dirigé un numéro de la revue Confluence Méditerranée consacré au pouvoir en Palestine et ta dernière publication porte sur ce qui se passe actuellement à Gaza et dont le titre de l'article est « La Cisjordanie, l'arrière-plan de la guerre israélienne contre Gaza ». Voilà, nous allons commencer donc, et peut-être une première question à vous, Monsieur Gresh. Est-ce que serait possible de donner quelques éléments de compréhension du contexte palestinien des années 70 précédant la signature des accords de Camp David ?
Bien, tout d'abord, merci pour l'invitation. La date tournante pour le mouvement national palestinien, après la défaite de 47-48 et une traversée du désert qui va durer jusqu'à cette guerre, c'est la guerre de 1967, qui va être assez curieuse parce qu'elle va marquer d'un côté une défaite arabe très importante, une défaite idéologique du nasserisme et de l'idéologie pan-arabe, et le surgissement des organisations qu'on appelle de fedayin, c'est des organisations qui prônent la lutte armée, qui ont commencé avant 67, mais qui, avec la défaite de 67, vont obtenir une légitimité très importante, à la fois dans l'opinion populaire arabe traumatisée par la défaite, mais aussi auprès de différents gouvernants arabes, et notamment Nasser. C'est la période où cette résistance palestinienne, par une conjoncture très, je veux dire, exceptionnelle, arrive à s'installer militairement en Jordanie, en dépit des autorités jordaniennes, et commence ce qu'ils appellent la lutte armée, la lutte pour la libération de la Palestine. C'est la période aussi où ces organisations de fedayin, en 1969, prennent le contrôle de l'Organisation de libération de la Palestine, qui est une organisation qui a été créée par Nasser en 1964 et qui est en fait un peu aux mains des rivalités. Enfin, l'enjeu de rivalité entre la Jordanie et l'Égypte sur qui contrôle la question palestinienne. C'est aussi le moment où ce qu'on appelle la révolution palestinienne définit ses objectifs, et c'est le texte que vous avez mentionné qui s'appelle « La révolution palestinienne et les Juifs », où pour la première fois, les Palestiniens reconnaissent la situation de fait créée par la colonisation juive en Palestine, et l'idée que leur objectif, c'est évidemment d'en finir avec les structures de l'État d'Israël, mais c'est de créer une Palestine où juifs, musulmans, chrétiens vivront ensemble. C'est l'idée de l'État, ce qu'on a appelé l'État démocratique. Je dirais que c'est la période d'ascension de ces organisations qui va s'achever en septembre 70 avec l'écrasement de la révolution palestinienne en Jordanie et son expulsion en 1971. Et il va y avoir une espèce de traversée du désert par les organisations palestiniennes qui vont les amener notamment à des opérations spectaculaires de détournement d'avions, de l'utilisation du terrorisme comme arme avec l'attaque contre les Jeux Olympiques de Munich, avec l'idée qu'expliquera Abou Iyad, qui est le numéro 2 du Fatah et à l'époque de l'Organisation de Libération de la Palestine, c'est il faut maintenir vivante la question palestinienne, et c'est la manière de la maintenir vivante alors qu'il n'existe aucune perspective politique. Ça va changer en 1973 avec la guerre d'octobre, avec la possibilité d'une solution politique. C'est l'époque où on parle d'une conférence internationale présidée par l'Union soviétique et les États-Unis, une conférence de Genève qui aurait pour but de régler l'ensemble des problèmes de ce qu'on appelle le conflit israélo-arabe, mais qui prend pour la première fois en compte la question palestinienne. Et ça met les organisations palestiniennes devant un dilemme, de savoir quelle est leur stratégie. Est-ce qu'elles maintiennent cette idée d'une libération de toute la Palestine alors que l'expérience de la lutte armée n'a pas donné, en termes militaires, de résultats importants, ou est-ce qu'elle va vers une solution de compromis? C'est l'époque où, je veux dire, Arafat, qui est le président à la fois de l'OLP et qui dirige le Fatah, va petit à petit s'engager dans une acceptation de facto de l'idée que il ne s'agit plus de libérer toute la Palestine, mais il s'agit de créer un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale. Ça suscite à l'intérieur de l'OLP une opposition importante. Un des aspects qui a évidemment pesé sur l'histoire de l'OLP, c'est que ça n'a jamais été une organisation unifiée. Le Fatah avait le rêve, si je peux dire, de créer une organisation semblable au FLN algérien, c'est-à-dire qui centralisait et qui unirait tout le monde. Ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible en partie parce qu'il y a toujours dans l'histoire palestinienne une ingérence des pays arabes. Il y avait des ingérences directes, c'est-à-dire que le régime syrien ou le régime irakien avait des organisations membres de l'OLP qui étaient financées par eux, et puis il y avait des ingérences indirectes, et puis parce que les Palestiniens étaient totalement dépendants du contexte arabe. Ils avaient beau dire que le problème c'est entre nous et Israël, et laissez-nous nous battre contre Israël, le problème c'est que c'était pas possible réellement, et donc cette pluralité de l'OLP a toujours été un problème sur comment on prend les décisions, comment on les applique, est-ce qu'on est capable de les appliquer, etc. Mais entre 1974 et 1977, il y a une évolution puisque le Conseil national palestinien décide l'idée qu'on peut créer une autorité palestinienne ou un pouvoir palestinien sur toute partie libérée du territoire, c'est-à-dire en fait Cisjordanie et Gaza. Ça amène la naissance à l'intérieur de ce qu'on va appeler le Front du Refus, qui regroupe toute une série d'organisations, notamment le Front populaire pour la libération de la Palestine, et des tensions importantes. Et puis, un autre élément qui est important de l'histoire de l'OLP à cette époque, c'est qu'ils vont être impliqués dans la guerre civile libanaise à partir de 1975, qui va affaiblir considérablement l'OLP, mais en même temps la cause entre guillemets palestinienne va petit à petit s'affirmer. L'OLP va être reconnue comme seul représentant des Palestiniens par les pays arabes, même la Jordanie finira par se rallier à cette idée, le mouvement des non-alignés soutient l'OLP, et surtout c'est l'époque où l'OLP commence à avoir des relations avec des pays européens. Ils ont des relations évidemment avec le camp socialiste qui les reconnaît et qui les soutient, mais ils vont avoir des relations avec des pays européens, et c'est la période où en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, nouveau président élu, considéré par beaucoup comme très pro-israélien, va accepter l'ouverture d'un bureau de l'OLP à Paris, ce qui est un tournant très important dans la politique française. C'était, une période où la France pensait qu'elle... pas penser, mais essayer d'agir réellement, concrètement, au Proche-Orient, et qui va ouvrir la porte, petit à petit, à l'acceptation de l'OLP comme un représentant comme le représentant des Palestiniens, et le fait qu'il ne peut pas y avoir de solution sans la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination. Et puis, il y a un autre élément important pour comprendre Camp David, et je termine là-dessus, c'est que je crois que c'est le 1er octobre 1977, les Soviétiques et Américains, ça sera la dernière initiative commune qu'ils prendront, signent un communiqué pour appeler à la réunion d'une conférence internationale à Genève pour régler globalement les problèmes du Proche-Orient. Et d'une certaine manière, la visite de Sadat à Jérusalem va mettre fin à ce projet et va transformer d'une certaine manière le conflit israélo-arabe aussi en un conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'est-à-dire que les soviétiques vont avoir l'impression, et pas tout à fait fausse, que la visite de Sadat et les relations et les négociations bilatérales entre l'Égypte et Israël, c'est une manière de les marginaliser. Et il faut savoir qu'à l'époque, Sadat fait toute une série de déclarations très très hostiles à l'Union soviétique. C'est le moment où il pense, vous regardez la carte derrière, que notamment l'implantation de l'Union soviétique en Afrique est un danger, qu'il faut combattre ça. Et donc il n'est pas du tout favorable à cette conférence internationale. Et c'est pour ça qu'il va faire aussi ce choix d'aller négocier directement avec les Israéliens, ce qui va mettre les Palestiniens en difficulté, mais on y reviendra.
Merci beaucoup. Dimal Sajdeya, comment l'Égypte, elle, en arrive à négocier ce traité de paix durant les années 70 ?
Merci François, bonjour à toutes et à tous. En fait, pour répondre à cette question, il va falloir revenir peut-être juste après la guerre pour ne pas remonter à plus loin, mais juste après la guerre de 73 et lors du sommet arabe, c'est-à-dire de la Ligue des États arabes en 74, il a été en fait rappelé que les questions syriennes, égyptiennes, ne devraient pas être séparées, c'est-à-dire que la priorité était donnée à un règlement global. Sauf que, juste après la guerre aussi, Sadat affirme secrètement qu'il était disposé à négocier directement avec les Israéliens s'il arrivait à obtenir certains bénéfices. Et les responsables israéliens eux-mêmes, en fait, se sont montrés plutôt favorables à cette hypothèse et disposés, plus ou moins, à opérer un retrait important. On ne savait pas ce que c'était important à ce moment-là, dans le Sinaï, en échange, bien évidemment, d'une déclaration de non-belligérance de l'Égypte. Dès 75, exactement, c'est justement en juin 75, Sadat fait aussi un geste qui était de rouvrir à la navigation le canal de Suez. Et là, il envoyait un message aux Israéliens qu'il n'était pas en fait disposé, disons, à reprendre les hostilités avec eux. En fait, ce changement politique global s'explique aussi par la prise de conscience de l'impossibilité de maintenir un état de guerre avec Israël et de la nécessité d'une paix pour pallier aussi les difficultés économiques, notamment après les émeutes de la fin de janvier 1977. Donc, une solution à ces difficultés-là n'aurait pas été possible, tout simplement, s'il n'y avait pas un abandon de la logique de la course aux armements avec les Israéliens. Alors, sur le plan politique, le règlement qui a été envisagé par Sadat avec Israël aussi devrait être, compris dans une logique plus globale. Et ce règlement faisait partie d'une stratégie qui cherchait un changement qui a permis finalement à l'Égypte d'intégrer le camp américain. C'est ce qu'on a dit quand Alain a parlé de ses déclarations très hostiles à l'égard des Soviétiques. Pour lui, tout simplement, les Américains avaient les clés pour une paix. Et c'était les seuls acteurs qui étaient capables, tout simplement, de faire pression ou d'influencer les Israéliens. Sur le plan militaire aussi, il a cherché donc à construire une alliance stratégique avec les États-Unis, qu'il considérait comme étant la seule superpuissance mondiale. Et donc, de garantir et de sécuriser ce soutien de la part des Américains dans la démarche envers des négociations avec les Israéliens. Alors, outre ces aides économiques et militaires, il y avait aussi quelque chose de l'ordre qui relevait du symbole. C'est-à-dire que lui, Sadat, souhaitait faire comprendre aux régimes arabes qui étaient à la base des pro-occidentaux, hein, il ne cherchait pas ceux qui n'étaient pas favorables à l'Occident, mais de leur faire comprendre que l'Égypte va faire partie, ou bien pas faire partie, mais va être le centre, en fait, de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Et donc, autrement dit, que ce n'était pas nécessaire, dans son esprit, de s'opposer à ce qu'il allait engager comme pour parler avec les Israéliens. Donc il faut, dans ce contexte-là, comprendre cette démarche envers un traité de paix avec Israël sur deux plans. Il y a l'aide américaine et le soutien notamment de Carter, mais aussi cela relève d'un choix très personnel, très individuel de la part de Sadat. Je reviendrai sur ce point. D'abord, pour juste donner une idée de ce que c'était l'aide américaine dont je parle. En fait, il y a eu une reprise des négociations sur le Sinaï et cette reprise a été proposée contre une aide américaine déjà. On est en 75. Et c'est pour parler en donner lieu à la signature de l'accord du Sinaï 2. Quand Jimmy Carter est arrivé au pouvoir, lui, il avait une stratégie qui était différente. C'est-à-dire que, différente de son prédécesseur et de celle de Kissinger, ce qu'on a appelé un règlement par étapes, lui, il s'orientait plutôt vers un règlement global. Et c'est dans ce contexte-là qu'on relance les pourparlers en février 1977, aussi avec une augmentation notable de l'aide américaine aux Israéliens, pour les encourager à s'engager, en fait, véritablement dans ces négociations. Les négociations internationales, non seulement traînent, mais aussi il y avait une volonté égyptienne de s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus bilatéral. Et donc, il s'agit là de... en fait, ça traînait aussi parce qu'il y avait toute la question de savoir si les Palestiniens allaient participer ou pas à ces négociations face à ce refus catégorique de la part des Israéliens. Donc, Sadat déclare dès 1977, devant l'Assemblée nationale égyptienne, qu'il était prêt à se rendre en Israël et pour négocier la paix. Ce qu'il fait 10 jours après, et il va à Jérusalem, il fait un discours à la Knesset israélienne, où il réaffirme sa volonté, tout simplement, de paix, et il rappelle quand même les droits des Palestiniens. Mais il faut comprendre là qu'il s'agit d'une reconnaissance de facto de la part des Égyptiens d'Israël. Alors, là, il va y avoir des rencontres entre Begin et Sadat, mais et on est vers la fin des années de l'année 77. Mais en fait, c'est pour parler là, et ces rencontres ne vont pas aboutir. Ça va être plutôt une impasse, ce qui demande l'intervention des Américains et par la médiation de Carter, il s'empare un peu du dossier et il invite du coup les deux, Sadat et Begin, à se rendre à Camp David. Camp David, c'est l'une des résidences du chef de l'État américain. Alors les négociations vont durer 13 jours, entre le 5 et le 17 septembre 1978, et ces négociations ne vont pas être simples. Les parties négocient. ils discutent, mais aussi ils se fâchent et ils menacent de laisser tomber le processus, et ce ne sont pas des négociations faciles. Carter rejoue encore une fois son rôle de médiateur et il arrive à la signature de ce qu'on appelle ces accords, les accords de Camp David. Et il s'agit là d'un accord cadre qui est composé de deux volets. Il y a le premier qui s'efforce, disons, de trouver un règlement à la question palestinienne, qui reste très vague, malgré la réaffirmation que la résolution 242 reste le cadre de référence des négociations. En plus, ces accords-là impliquent des partenaires sans les consulter préalablement, ce qui pose véritablement problème. Ils ne remettent pas en cause le contrôle israélien des territoires occupés et ne traitent absolument pas des questions fondamentales, c'est-à-dire Jérusalem, les réfugiés, etc. Donc, de manière globale, les parties là appellent à la conclusion d'accords transitoires d'une période de 5 ans. Israël accepte l'instauration de ce qu'on appelle une autorité autonome, arabe, élue dans les territoires, c'est-à-dire dans la Cisjordanie et Gaza, et avec une perspective que la Jordanie sera associée à ce processus. Et 3 ans après l'établissement de l'autorité autonome, donc le statut définitif des territoires sera discuté entre Israël, l'Égypte, la Jordanie et les représentants qui seront élus de la Cisjordanie et de Gaza. Tout ça est bien problématique pour les Palestiniens. En revanche, le deuxième volet définit le cadre, en fait, d'un traité de paix, de la paix israélo-égyptienne, et les accords sont beaucoup plus aboutis et clairs. On pose les éléments du règlement pacifique du conflit égypto-israélien contre la rétrocession du Sinaï à l'Égypte et sa démilitarisation. Il y a le droit de libre passage pour les navires d'Israël dans le golfe et le canal de Suez, le détroit de Tiran et le golfe d'Aqaba. Il y a aussi des provisions qui concernent le stationnement des forces militaires selon des indications bien précises dans ces accords cadres. En fait, les deux parties prévoient 3 mois pour finaliser le traité de paix. Et encore une fois, les pourparlers ne sont pas faciles, mais finissent par se dénouer, et avec l'aide, encore une fois, de la médiation américaine. Et il y a un traité de paix israélo-égyptien qui est signé donc le 26 mars 1979. Alors, quand j'ai dit qu'il y avait deux éléments à mon sens, le deuxième élément revient à la question très individuelle. Et je termine sur ce point. Donc il faut comprendre cet aboutissement de ces accords comme une volonté très personnelle de la part de Sadat. Il faut aussi remettre cette question dans le cœur des relations bien complexes de Sadat avec le ministère des Affaires étrangères égyptien de l'époque, qui ont finalement renforcé ce caractère individuel. Et par exemple, l'exemple le plus parlant de cette complexité de la relation, c'est la démission de Smaïl Fahmy, qui était le chef de la diplomatie égyptienne entre 1973 et 1977, à la veille du départ de Sadat à Jérusalem. Cette même vision d'une discorde, disons, s'est confirmée aussi au moment des négociations, lors des négociations à Camp David en 1978 et encore même après, juste avant la signature du traité de paix. Et ces désaccords portaient aussi sur certaines formulations dans les accords, c'est-à-dire que c'était pour certains des diplomates égyptiens problématique en ce qui concerne déjà des questions de sécurité dans le Sinaï et aussi en ce qui concerne la question la question israélo-palestinienne à proprement parler.
Merci beaucoup. Quand tu dis que c'était une question personnelle pour Sadat, qu'est-ce que tu entends exactement ?
C'est-à-dire que il y avait des comités qui étaient, par exemple, créés pour discuter des provisions des accords, mais on savait très bien que Sadat, et selon les gens qui ont travaillé avec lui, quand on lit les mémoires, les archives, on se rend compte qu'il y avait des comités, ça c'est vrai, il écoutait, mais on savait très bien que la dernière décision était celle de Sadat.
Merci. On sait également que pour les Palestiniens, il y a une sorte d'inquiétude récurrente de voir une paix séparée ou bilatérale, signée entre Israël et des pays arabes. Là, en l'occurrence, est-ce que le traité de paix avec Israël n'accrédite pas ces craintes-là ? Et comment le mouvement national s'engage ? Enfin, quelles sont les réactions ? Quels sont les débats au sein du mouvement national ? En pleine guerre aussi au Liban, comment ça s'articule aussi avec l'invasion du Liban de 82 ?
D'abord, pour l'OLP, enfin pour la direction de l'OLP, notamment pour Arafat, le soutien de l'Égypte historiquement a été très important. C'est-à-dire, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'ingérence des pays arabes dans les affaires de l'OLP. Je dirais, l'Égypte a toujours eu une certaine distance et n'a pas essayé de jouer une tendance contre l'autre, etc. Donc, Arafat perd un allié. Et puis, plus important, évidemment, c'est une paix séparée. Après, on va voir pourquoi l'aspect autonomie n'a pas, enfin, l'aspect bilatéral israélo-égyptien a fonctionné, mais pas l'aspect autonomie. Mais c'est une paix séparée, c'est-à-dire que ça met fin au cycle des guerres israélo-arabes. C'est de 48, 56, 67, 73. C'est essentiellement, enfin, c'est des guerres israélo-arabes. Là, avec ce traité, ça enlève toute possibilité d'une action militaire et effectivement d'une pression sur Israël. Alors là, on tombe sur l'idée, c'est pourquoi Israël veut faire la paix. Vous savez, les Américains et les Européens ont souvent une idée, il faut que les gens négocient de bonne foi. Et à quoi moi je réponds, mais les dirigeants israéliens, de bonne foi, ils pensent que Jérusalem c'est la capitale éternelle d'Israël, que le Golan c'est aussi, ça fait partie des rêves d'Israël, et qu'une bonne partie de la Cisjordanie aussi. La négociation de bonne foi, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je sais, c'est que quand les négociations sont totalement disproportionnées, et on le verra à Oslo, on arrive à quelque chose qui a l'illusion d'une paix, mais qui ne l'est pas. Alors, l'autre élément important, c'est la mise à l'écart de l'Union soviétique. Il est évident que ça a joué un rôle important dans les positions que prennent un certain nombre de pays, d'abord, la Syrie notamment, qui est alliée à l'Union soviétique, un peu l'Irak, et les organisations du Front du Refus, Front Populaire de Libération de la Palestine, qui se sont, dans les dernières années, rapprochées de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique a l'impression, et je pense qu'elle est en partie vraie, que ces négociations sont faites pour l'éliminer de la région. Et donc, elle va réagir totalement négativement, elle va soutenir toutes les mobilisations qui vont avoir lieu dans le camp arabe pour s'opposer à cette paix. Un autre élément qui pèse aussi de manière importante chez les Palestiniens, c'est que ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire ceux de Cisjordanie et Gaza, qui, jusque dans le début des années 70, ne jouent pas un rôle très important et ne sont pas très actifs, petit à petit vont se mobiliser. Ils vont se mobiliser pour l'OLP et ils vont se mobiliser pour une solution politique, c'est-à-dire eux, ils sont, évidemment, parce que pour des raisons évidentes, ils sont pour l'évacuation de la Cisjordanie et de Gaza, parce que ça leur permet de vivre en dehors de l'occupation. Mais curieusement ou pas, ils vont prendre position de manière très forte contre l'accord égypto-israélien, et justement une des raisons de l'échec des négociations sur le volet palestinien, c'est qu'il n'y a aucun palestinien qui veut aller négocier. Au départ, c'est les Égyptiens qui vont négocier. Et évidemment, dans les faits, ça a donné dans les rapports de force, ça a donné ça a renforcé Israël qui a pu, c'est la période où Israël annexe officiellement le Golan, réannexe officiellement, prend une décision concernant Jérusalem et puis va envahir le sud du Liban en espérant éliminer l'OLP, mais elle peut le faire parce qu'elle sait qu'elle ne risque rien sur son front sud. Dans ce cadre, les négociations, évidemment, enfin les débats dans l'OLP vont être extrêmement vifs. Il va y avoir d'abord quelque chose qui est important, on n'a pas parlé, c'est qu'il va y avoir une réconciliation entre les Palestiniens et la Syrie. Comme vous savez, en 1976, les troupes syriennes sont intervenues au Liban et ont empêché la victoire de ce qu'on appelle les islamo-progressistes, c'est-à-dire l'alliance entre le mouvement national libanais et l'OLP. Et donc, l'influence des Syriens sur l'OLP va grandir. Donc ça, c'est un élément aussi important. Et dans les débats, évidemment, internes à l'OLP, la tactique stratégique d'Arafat, ça va être à la fois d'essayer d'accommoder le front du refus, parce qu'il pense être face à une situation d'urgence qui risque de marginaliser la question palestinienne, mais aussi de maintenir ce qu'il avait dit au moment de son invitation à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de paix qui n'est pas aussi à la création d'un État en Cisjordanie et Gaza, et qu'il va essayer de capitaliser sur le mouvement diplomatique, et notamment par une offensive diplomatique en direction de l'Europe. Et c'est le moment où il rencontre le président de l'international socialiste Willy Brandt, où il rencontre plusieurs dirigeants sociaux-démocrates, et puis c'est le moment où, là aussi sous l'impulsion de la France et de Valéry Giscard d'Estaing, la communauté économique européenne, qui à l'époque regroupe 9 États, adopte la fameuse déclaration de Genève qui reconnaît, enfin dit que toute paix nécessite la reconnaissance du droit à la paix et à la sécurité d'Israël, la reconnaissance des droits à l'autodétermination du peuple palestinien et une négociation avec l'OLP qui représente les Palestiniens. Donc sur ce plan-là, il obtient des succès, mais je veux dire, les rapports de force sont très négatifs et je veux dire, il y a du côté israélien, comme j'ai dit, aucune volonté de négocier avec l'OLP quand les neuf adoptent cette déclaration de Venise. Begin, qui est Premier ministre, dit on veut nous faire négocier avec les Hitler arabes. Voilà, c'était donc. Et en 82, il y a cette invasion israélienne du Liban, qui est avec l'idée qu'on va, de Sharon notamment, de liquider l'Organisation de libération de la Palestine, qui semble être pour les Israéliens le dernier obstacle à leur hégémonie, à la fois dans les territoires occupés, mais aussi dans la région. On sait ce qu'il en est advenu, c'est-à-dire que l'OLP a subi une défaite importante et a été obligé d'aller se réfugier en Tunisie, après une résistance qui a duré 2 mois, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais dans la réalité, elle a quand même contribué à marginaliser l'OLP, et toute la période qui va suivre va être de tenter de maintenir cette exigence de la reconnaissance palestinienne, mais dans des conditions effectivement beaucoup plus difficiles et qui vont aboutir, mais on y reviendra, aux accords d'Oslo, mais dans des conditions tellement de rapports de force tellement défavorables que les accords étaient porteurs de leur propre échec. Merci.
Merci beaucoup. On reviendra peut-être effectivement sur certains points, parce qu'il y a tellement d'éléments à couvrir, mais peut-être, Dima, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette difficulté que les Palestiniens ont face à l'accord signé entre Israël et l'Égypte.
Oui, absolument. Déjà, pour commencer, il faut regarder un peu le cadre qui a été proposé par les Américains dans ces accords-là. Ne reflète absolument pas la position ou bien les revendications nationales des Palestiniens. Tout simplement, on parle de leur droit à l'autodétermination. Et du côté de l'Égypte, la position égyptienne a été de se contenter de quelques formulations à la marge. En vrai, c'est pas le cœur de ces accords. On sait aussi que l'objectif final du dialogue, de ce dialogue, n'a jamais été définitivement arrêté. Et les négociations sur l'autogouvernance ou l'autogouvernement, en reprenant uniquement les principes de la résolution 242 et un peu 338, en fait, sont restés des fondements non contraignants. Donc, il n'y avait pas d'obligation. On ne parlait pas d'obligation. Ce qui a fait que cet état des choses a permis à Israël de continuer à revendiquer sa lecture de cette résolution 242, c'est une lecture complètement contestée, de se retirer des territoires et non pas de tous les territoires qui ont été occupés en 67. Et donc de décliner tout simplement ses engagements vis-à-vis des autres parties dans les négociations. Sur le plan politique, et là j'aurai deux choses à dire, premièrement sur le plan politique et ensuite sur le plan juridique. Sur le plan politique, là, ces accords, ou bien les négociations, l'état des négociations, montrent un déséquilibre du rapport des forces, de force entre Israël et l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait une incapacité de l'Égypte de poser des conditions à la poursuite de ce qui s'est passé à la signature des accords de Camp David, c'est-à-dire les accords cadres. Et donc, pour éviter les répercussions que cela aurait pu avoir, ce qui s'est passé finalement, sur la place de l'Égypte au sein du monde arabe, parce que finalement l'Égypte a été exclue de la Ligue des États arabes pendant 10 ans, en fait, Sadat a fait savoir dès le départ des négociations qu'il n'était pas prêt à signer cette paix séparée et qu'il essayait tout au long de ces négociations d'obtenir ne serait-ce qu'une déclaration de la part de Begin sur le droit des Palestiniens. Donc ça serait finalement quelque chose de symbolique, mais un engagement, ne serait-ce que pas à l'écrit, pas forcément à l'écrit, mais un engagement contre, bien évidemment, la reconnaissance d'Israël et des garanties pour sa sécurité. On sait très bien que ça ne s'est pas passé comme ça et que cela a mené finalement à ce processus séparé et à une paix complètement séparée, parce que cette exigence, cette volonté de la part de Sadat n'était pas envisageable pour Begin. Et il y a un deuxième point, c'est que sur le plan juridique, l'Égypte s'est engagée sur quelque chose. Et elle n'avait, juridiquement parlant, là on parle de texte, le texte lui-même, elle n'avait pas le droit de s'engager sur ce qu'elle a fait finalement à Camp David, tout simplement parce que en engageant l'OLP et la Jordanie, elle s'engageait au nom de ces deux parties qui n'avaient pas accepté préalablement. C'est-à-dire que quand on veut engager un État dans un traité ou dans des accords, il faut un accord écrit et préalable. Et il faut aussi dire que du côté israélien, cette idée, la question de l'autonomie, et ça c'est un point extrêmement important, la question de l'autonomie n'a jamais vraiment concerné la terre. Ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de population. Et ça pose un véritable problème, ça continue à poser un problème jusqu'à aujourd'hui. Donc, les Palestiniens auraient pu être séduits par le processus s'il y avait des questions plus fondamentales, c'est-à-dire la question des réfugiés, la question de la terre, la question de l'eau, la question de Jérusalem, qui était complètement absente de ces négociations. Un tout dernier point, c'est qu'il faut aussi regarder ce qui est symbolique dans le processus. Et pour les Palestiniens, ils avaient l'impression que cet accord israélo-égyptien était une transformation de la cause qui était la cause des Arabes en un problème. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de la question palestinienne comme un problème qui se limitait à la Cisjordanie et à la bande de Gaza et qui était en plus, qui excluait en plus Jérusalem-Est, mais qui était négociable Et non seulement négociable, c'était négociable avec les Israéliens qui intervenaient dans ces processus, non en tant que force d'occupation, mais en tant que partie intéressée, parce que c'était le cadre qui a été mis pour les parties qui participaient. Merci.
Merci à toi. Tu l'as dit, l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe. Il y a aussi des relations qui sont nouvellement créées, instaurées avec ce traité de paix entre Israël et l'Égypte, qui n'ont pas pour autant dissuadé le gouvernement israélien de poursuivre une politique hostile envers le monde arabe, notamment peut-être par le fait qu'Israël considérait que son accord avec l'Égypte était un accord de neutralisation de l'Égypte. Du coup, comment on peut expliquer les relations israéliennes, ou plutôt comment les relations israélo-arabes influencent-elles le développement des relations entre l'Égypte et Israël ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent en réalité le maintien. Donc si on regarde depuis la signature du traité de paix israélo-égyptien, ce traité n'a pas été, disons, complètement remis en question et n'a jamais été suspendu. Et ça s'explique par plusieurs raisons. La première chose, c'est la rente stratégique et la rente diplomatique que perçoit l'Égypte et qui était une condition, en fait, de la part des Américains. C'est-à-dire que si on regarde entre 1979 et 2011, l'Égypte a bénéficié d'une aide essentiellement militaire qui de plus de 45 milliards de dollars de la part des Américains. Et ça, c'est pas négligeable. Et donc, il y a cette question. Là, la question de la rente, c'est-à-dire des bénéfices économiques et militaires essentiels. Il y a aussi la question de la récupération du Sinaï. Parce que au moment du retrait israélien du Sinaï, Israël refuse de se retirer de Taba, alors que c'est une partie intégrante des territoires égyptiens. Et donc, pour régler ça, l'Égypte a décidé de suivre les dispositions de l'accord tout simplement, concernant les questions qui restent sans règlement, enfin non réglées par voie de négociation, c'est-à-dire de recourir à un arbitrage international. Les Israéliens ne voulaient absolument pas parce qu'ils préconisaient tout simplement un règlement politique qui impliquait des concessions des deux parties. Les Égyptiens n'ont pas voulu. Finalement, c'était ça la voie qui a été entreprise, c'est-à-dire arbitrage international qui a donné raison à l'Égypte. Mais donc, cette récupération d'Ottawa relève de deux questions essentielles. La première, c'est que ça explique pourquoi l'Égypte a signé le traité de paix, c'est-à-dire de dire « nous avons récupéré tout le territoire » et non pas une partie, on ne sait pas pourquoi finalement on a signé. Et la deuxième chose, c'est que c'est tout simplement une question de prestige et de fierté nationale. Il y a aussi cette question-là. Mais il faut aussi, et je m'arrête après ça, il faut voir cette question de la continuité des relations israélo-égyptiennes dans ce que les Égyptiens eux-mêmes ont appelé une paix froide, c'est-à-dire que c'était une stratégie réelle. À mon sens, c'était une stratégie réelle, au moins dans les années 80. Après, ça devient une autre histoire. Mais en fait, on peut dire que l'Égypte s'est fixé un prix et des limites de la signature de ce traité de paix et n'a pas voulu dépasser ce prix. Le prix, c'était un traité de paix, ni plus ni moins. Et en fait, il faut comprendre que dans l'esprit de Moubarak, le traité de paix n'était pas vraiment... parce que là, Sadat a été assassiné, donc on est au début des années 80, c'est Moubarak qui est au pouvoir. Et en fait, ça ne constituait pas vraiment une valeur en soi. C'était vraiment un prix à payer pour avoir des avantages substantiels de la part des Américains, la récupération du Sinaï et des aides, comme je l'ai dit, des aides militaires et économiques. Et une toute dernière chose, c'est que le fait de dire que c'était une paix froide, ça permettait aussi de un peu calmer les esprits qui, accusaient l'Égypte d'avoir trahi la Palestine. C'est de dire, nous avons une stratégie. C'est pas, on n'a pas fait la paix avec Israël parce qu'on voulait faire la paix sans contrepartie avec les Israéliens, mais on a fait la paix pour récupérer le Sinaï, on a fait la paix parce qu'on ne pouvait pas continuer sur une voie de guerre. Et finalement, nous n'avons trahi personne. Nous travaillons même sur la question palestinienne. Et ça, c'était la mission de Moubarak pendant tous ses mandats, ses différents mandats, mais surtout dans les années 80. Merci.
Merci à toi. Oui, c'était un peu une des conditions, en fait, de l'accord, si je ne me trompe pas, en tout cas, entre le fait que cet accord cadre ait prévu notamment une négociation sur la Palestine.
Quand David ?
Les accords cadres de 78.
Oui, absolument. Il y avait ça, mais les Palestiniens ont vu, enfin, à cause de tout ce que j'ai pu développer, que c'était pas possible, en fait, de s'engager dans cette voie-là. Et donc, oui, c'était une sorte de continuité, de dire, nous sommes engagés sur quelque chose, on continue, mais c'était surtout aussi pour sortir de leur isolement.
Alors du coup, ça fait bien la transition. C'était pas possible de s'engager, et pourtant, les Palestiniens s'engagent malgré tout, bon gré mal gré, dans un processus de négociation qu'on peut percevoir notamment en 1982, lorsqu'Arafat accepte le plan FAD, qui reprend en partie les éléments de l'accord cadre. Alors comment, de quelle manière, en fait, le traité de paix avec l'Égypte contribue à engager les Palestiniens dans ce processus de négociation? Comment ils en arrivent à accepter, ouais, en fait, les...
Ouais. D'abord, il faut noter que le monde change en 90-91 avec la disparition de l'Union soviétique. Ça crée un climat international qui est différent. Ça crée aussi un début de résolution de toute une série de conflits qui durent depuis des années, qui ne sont pas seulement des conflits Est-Ouest, mais qu'on a transformés en conflits Est-Ouest, que ce soit en Afrique australe, en Amérique centrale. Donc il y a des négociations en cours, et donc il y a l'illusion qu'on rentre dans un monde nouveau dans lequel la paix devient possible. Je crois que ça, c'est un élément très important, mais aussi les Palestiniens perdent un soutien. Bon, c'est vrai que l'Union soviétique des années 80 est plutôt en crise, mais ça, c'était un soutien géopolitique important. Donc on est dans une autre configuration. Et puis, les accords de Camp David, finalement, ont imposé cette idée d'une période de transition nécessaire, de 5 ans, d'une autonomie qu'il va falloir négocier. Et, bon, les Palestiniens s'y rallient beaucoup parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont dans un rapport de force qui est très défavorable. Et on arrive à ces accords d'Oslo. Bon, on peut toujours discuter sur... l'échec de ces accords, mais une des causes principales de l'échec des accords, outre le fait que les Israéliens ont toujours pensé que ces accords, qu'il n'y avait aucune date sacrée qui pouvait violer les accords, que ça n'avait pas d'importance et qu'il n'y avait pas de conséquences pour eux, c'est le fait que la communauté internationale, et je pense surtout aux États-Unis et aux l'Union européenne, qui étaient d'une certaine manière les garants de ces accords, dans toutes les négociations, chaque fois qu'il y a eu des négociations, ils ont fait pression sur la partie la plus faible, les Palestiniens, pour qu'ils fassent encore plus de concessions. Et donc, par exemple, comme vous savez, la colonisation n'a pas arrêté un jour entre 1993 et aujourd'hui. Et jamais il y a eu pression sur Israël pour arrêter cette colonisation. Quand il y a eu des négociations difficiles sur le retrait israélien, par exemple, d'une ville comme Hébron, les Européens et les Américains ont avalisé un plan kafkaïen qui divise la ville en deux pour préserver 500 colons complètement extrémistes, complètement à côté desquels les djihadistes sont plutôt des gens modérés, et qui prennent en otage la moitié, enfin 30 000 personnes dans la ville. Et on a divisé la ville en deux. Là où il y a les 500 colons, c'est resté sous contrôle l'armée israélienne, et petit à petit toute la population palestinienne a été obligée de s'enfuir, et puis l'autre partie qui était, enfin, sous autorité palestinienne tout à fait provisoire. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si je pense qu'il peut y avoir aussi des dynamiques de paix, que après tout des solutions comme en Afrique du Sud elle était peut-être possible, etc., mais elle n'était pas possible dans un rapport de force tellement déséquilibré. au même moment où les Occidentaux faisaient pression sur, enfin, soutenaient la partie la plus forte, ou ne faisaient pas pression sur la partie la plus forte. Donc on est arrivé dans cette solution, dans cette situation où ces accords ont totalement échoué, la colonisation a augmenté, mais un des problèmes des diplomaties occidentales, et ça a été toujours le fait qu'ils n'ont jamais compris ce qu'était la question palestinienne pour le monde arabe. C'est-à-dire que le fait, à la fois d'abord qu'il y a une... il s'est ancré dans 50 ans une volonté de résistance des Palestiniens qui résiste à tout. Il y a des déclarations très intéressantes de dirigeants israéliens qui disent « on a gagné la guerre maintenant, tout ça c'est fini ». Il faut que les Palestiniens reconnaissent leur défaite. Et ça, c'est, enfin, à mon avis, en tous les cas, pour les décennies qui viennent, c'est impossible. Et à mon avis, encore plus après Gaza. Mais, donc, il y a cette force de résistance et qui fait que sur le territoire historique de la Palestine, il y a aujourd'hui 8 millions de Juifs israéliens, 8 millions de Palestiniens, et qu'on peut espérer en expulser, les Israéliens peuvent espérer en expulser quelques centaines de milliers, mais il y a cette situation qui fait qu'elle explose toujours et de manière inattendue, comme ça s'est passé à Gaza. Et puis il y a l'idée des diplomaties occidentales, mais aussi d'une partie des régimes arabes, que bon, finalement cette question palestinienne n'est pas si importante que ça, et que la preuve, c'est qu'il y a eu les négociations de paix entre Israël et différents pays arabes, qu'elles ont abouti à des négociations, etc. Le problème, c'est que même quand il y a des traités de paix, sur l'Égypte, c'est une paix froide, au sens où il n'y a pas d'échange au niveau de la population, et au niveau, aujourd'hui, dans tous les pays arabes où ça a été signé, quand ils peuvent, comme au Maroc, ils manifestent de manière importante contre ce qui se passe à Gaza, et il n'y a absolument aucune intégration d'Israël dans son contexte régional. Et ça, ça crée au-delà de l'aspect moral du droit des Palestiniens, ou politique du droit des Palestiniens à l'autodétermination, il y a un aspect d'instabilité permanente. C'est-à-dire le fait que cette logique qui se met en œuvre, elle aboutit à une instabilité permanente. Alors, une fois ça se traduit par une intifada, l'autre fois ça se traduit par ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer à Gaza, etc. Mais cette question reste au cœur de l'instabilité, et tant qu'on ne l'aura pas traité, on aura de l'instabilité. Voilà.
Merci beaucoup. Il y a un élément que Alain vient de mentionner, c'est le lien qu'il y a entre Camp David et Oslo. Et c'est une des questions que tu as montrées dans ta thèse, sur laquelle tu as travaillé, et qui, à mon avis, est passionnante, un peu négligée dans l'historiographie, ou alors oubliée. C'est le fait que peut-être tu peux nous en dire plus, il y a un lien entre Camp David et Oslo. Est-ce que Camp David et Oslo, c'est pas la face d'une même pièce ? Les deux faces d'une même pièce, pardon.
Alors, du point de vue analytique... Oui, il y a des ressemblances très fortes que je vais mentionner, sur lesquelles je vais revenir. Mais il y a aussi quelque chose qu'on a beaucoup répété, qu'on a beaucoup dit à ce sujet-là, c'est que les accords d'Oslo n'ont pas offert aux Palestiniens plus que ce qui leur avait déjà été proposé dans le cadre de Camp David, c'est-à-dire 15 ans plus tôt. Déjà, pour commencer, en fait, dans l'un comme dans l'autre des accords d'Oslo et de Camp David, il y a des choses qui se ressemblent. Ce sont des accords transitoires, déjà, d'une période de transition, qui n'excède pas 5 ans, et ça concerne la mise en place d'une autonomie. Donc, il y a des modalités d'élection d'une autorité autonome, et on renvoie à plus tard et on retarde le plus possible le statut définitif, c'est-à-dire les questions définitives et le statut permanent des territoires. Il n'y a aucune mention qui n'a été faite des droits nationaux palestiniens, ni de leur droit à l'autodétermination, et encore moins quand on parle de l'établissement d'un État. Donc, les provisions qui ont été acceptées par la direction palestinienne à Oslo, qui pour la première fois en fait parlait des Palestiniens, ils sont référés au peuple palestinien comme les résidents de la Cisjordanie et de la bande de Gaza au lieu de parler de Judée et Samarie. Ces accords-là ne prévoyaient aucune obligation pour qu'Israël mette fin à l'occupation. Il n'y a pas une mise. Enfin, on ne parle pas de ça. Ce ne sont pas les termes qui sont employés. Et pourtant, c'est ça la réalité sur le terrain. Alors, certes, l'établissement, comme je l'ai dit, l'établissement d'un État palestinien n'est pas du tout prévu dans ces accords. Il y a quand même une référence qui a été faite aux résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en fait, il n'y a aucune garantie, encore une fois, et j'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'on parle, on mentionne des choses, on fait référence, on fait des références à des résolutions qui sont, puisque ce sont des résolutions du Conseil de sécurité, par principe, ce sont des résolutions contraignantes, mais là, il n'y a aucune garantie qui est proposée, qui est accordée aux Palestiniens. Il n'y a aucun délai maximum non plus qui n'a été prévu pour trouver un accord aux questions liées au statut permanent. On a donné une date pour commencer à négocier dans le cadre d'Oslo, et on a dit qu'au bout de 3 ans après les élections, dans le cadre des accords de Camp David. Mais tout ça reste flou. Alors, de ce point de vue-là, on peut considérer que le soutien accordé à ces accords, les accords d'Oslo, par les Égyptiens, est naturel. Les Égyptiens, là, restent fidèles à toutes les provisions de Camp David et à leur stratégie initiale qui remonte donc à l'époque de Nasser. Donc Moubarak ne sort pas de ce cadre, déjà. Et l'exemple de l'autonomie dont on a parlé. L'autonomie palestinienne s'est avérée complètement obsolète dans le cadre de Camp David, et pourtant, on arrive à Oslo, et c'est au centre de ces accords. Mais les reproches qu'on pourrait faire aux Palestiniens, les reproches égyptiens et parfois arabes même, selon lesquels les Palestiniens n'avaient qu'à accepter Camp David, déjà il y a une différence de contexte. Alain a très bien expliqué les dynamiques dans les années 70 puis dans les années 80, et ça il faut le prendre en compte. Mais il y a aussi une autre question, c'est que les Palestiniens, contrairement à l'Égypte, c'est-à-dire l'OLP à l'époque, n'auraient pas pu survivre à une crise fondamentale avec le monde arabe, c'est-à-dire face à des pays comme la Syrie ou l'Irak. Les Palestiniens et l'OLP, en l'occurrence, n'auraient pas pu survivre à une crise économique consécutive aux coupes budgétaires de la part des pays du Golfe. Et on a vu très bien ce qui a mené à Oslo. En grande partie, c'était aussi des problèmes économiques. Et la deuxième chose, c'est que on parle de Camp David et de Oslo comme si l'accord était déjà là. En fait, en réalité, on parle de l'éventualité d'un accord israélo-égypto-palestinien. Là, on parle de Camp David. Oslo, oui, il y a eu un accord. Mais quand on reproche aux Palestiniens, il n'y avait pas d'accord à proprement parler. Donc, c'était une hypothèse qu'on posait. Cela reste quand même à vérifier, parce que un accord égypto-israélo-palestinien n'aurait pas été possible si Sadat n'avait pas décidé justement de conditionner l'application du volet égyptien à l'application, à la mise en place d'un volet palestinien, ce qu'il n'était absolument pas prêt à faire. C'est-à-dire, à l'époque, il s'agissait du Sinaï, c'est-à-dire de récupérer des territoires égyptiens. On parle là d'une souveraineté, d'une question de souveraineté et de question de sécurité nationale. Il y a quand même des doutes que Sadat aurait préféré conditionner l'application et la récupération du Sinaï à la mise en place d'un accord éventuel accord avec les Palestiniens. Donc on peut dire quand même, et c'est ce qui a été dit et analysé sur ce sujet par des gens qui ont travaillé sur ces questions-là, mais aussi par des proches de Sadat de l'époque et ensuite de Moubarak, c'est que, en vrai, le refus palestinien a arrangé Sadat. Donc je pense que je m'arrêterai là. Pour pas être trop longue.
Merci beaucoup. Oui, le refus, alors je disais qu'il y avait sûrement un lien avec 1979, mais les Palestiniens eux-mêmes à Oslo, pour justifier l'accord qu'ils ont signé, se sont référés à ce qu'ils avaient négocié en 1974 au Conseil national, et notamment le programme en Dupont, le point numéro 2, qui prévoyait une sorte de libération par étapes avec la création d'une autorité intérimaire. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez en dire quelques...
Simplement pour dire qu'en fait, les Palestiniens non seulement ont accepté de manière claire l'idée d'un État palestinien Cisjordanie et Gaza, mais c'est une position qui a été acceptée par l'ensemble du monde arabe avec le plan Fahd en 1982. C'est-à-dire, le problème, c'est pour eux, la solution est claire, c'est-à-dire en échange de la paix, la création d'un État palestinien Cisjordanie et Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale, le monde arabe et l'OLP étaient prêts à faire la paix depuis 20 ans déjà, et le refus, il est un refus israélien, hein, parce qu'ils considèrent que Jérusalem est la capitale éternelle, qu'une partie de la Cisjordanie Gaza, ça leur appartient, etc., etc. Donc, et qu'ils préfèrent, et ça c'est vrai depuis le début, ils préfèrent les paix séparées. Et ça, l'idée de faire éclater, de faire des paix séparées avec chacun des pays arabes, avec l'espoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre, c'est-à-dire juste un peu avant ce qui s'est passé le 7 octobre, Netanyahou a fait une intervention aux Nations Unies, il a monté une carte du Proche-Orient, il n'y avait pas la Palestine. Voilà, c'est ça leur espoir, c'est qu'ils aient la paix avec chacun des pays arabes et que la Palestine disparaisse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire disparaître les Palestiniens.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.